DW, l'arbre à palabre.
Bonjour, la numérisation est-elle une chance ou une menace pour la démocratie? À grandes enjambées, les nouvelles technologies médiatiques bousculent les habitudes et l'Afrique n'est pas en reste. La communication numérique a permis d'améliorer considérablement la participation des individus à la gestion de la chose publique. Les populations ont plus facilement accès à l'information, des documents, même secrets parfois, se retrouvent sur la place publique. Tout ceci revitalise la démocratie pour certains, mais pour d'autres, ce développement est inquiétant. Le flux de montage et de fake news menacerait la démocratie, selon eux. La numérisation et la circulation de l'information qu'elle permet doivent-elles être perçues comme un problème? Le sujet est au menu cette année du Forum mondial des médias, le Global Media Forum de la Deutsche Welle, événement qui a lieu chaque année ici à Bonn. Des milliers de participants venus de 140 pays. Parmi eux, nos invités sous cet arbre à palabres. D'abord, je commence par ma gauche dans ce studio, Boubacar Boris Diop, écrivain et intellectuel sénégalais, auteur entre autres de Mourambi, le livre des ossements. Vous êtes aussi enseignant au Nigeria. Monsieur Diop, bonjour.
Oui, bonjour.
À ma droite maintenant, Moussa Sen Apsa, homme de culture, cinéaste, réalisateur du film L'affaire Sey, le festin des vautours. Monsieur Apsa, bonjour.
Bonjour.
Et je retourne à ma gauche où se trouve Christian Lusakweno, promoteur de radio Top Congo FM basé à Kinshasa, partenaire de la Deutsche Welle. Monsieur Lusakweno, bonjour.
Monsieur Fréjus Kenon, bonjour et bonjour à tous les auditeurs de la Deutsche Welle.
Merci à vous tous de nous rejoindre dans ce studio pour l'enregistrement de cette émission. Merci également à nos auditeurs qui ont déjà pris nombreux le rendez-vous. DW. Alors, la numérisation, je le disais tantôt, avec toutes ses implications, la numérisation, la circulation massive de l'information, la circulation aussi rapide de l'information, est-ce qu'elle est en contradiction avec la démocratie, Christian Lusakweno?
Non, pourquoi elle le serait? À partir du moment où tout le monde fait preuve de responsabilité, cela devrait faire du bien à la démocratie, même si récemment, même en France, des journalistes ont été interpellés dans l'affaire Benalla parce qu'ils ont diffusé des informations que la justice ou que les services secrets ont jugées de sensibles. Donc, en faisant appel à la responsabilité des journalistes, si le lecteur arrive à séparer le grain de livret, cette numérisation devrait participer de la démocratie et non pas être une atteinte à la démocratie. On parle de liberté de parole, on parle de liberté de pensée, pourquoi pas de liberté de circulation ou de meilleure circulation de l'information.
Merci pour votre première intervention. Moussa Sen Apsa, Christian Lusakweno est très clair. La numérisation n'est pas une menace pour la démocratie, dit-il, mais il a mis des gants, il a dit si. Quelle est votre position sur ce débat?
Moi, je pense que l'information est un outil de pouvoir. Et qui détient l'information détient le pouvoir. Et il arrive que, en tout cas en ce qui me concerne l'Afrique, qu'il y a un flot d'informations qui est déversé un peu sur ce continent sans qu'on arrive à vérifier la véracité des fouilles. Parce que justement, nous sommes dans un continent où, disons, à la limite 20%, 30% maximum de la population sait lire et écrire. Et donc c'est plus au niveau de la parole. Celui qui sait lire a accès à une information qu'il ne vérifie pas tout le temps et qu'il dissémine comme ça au niveau de la population. Et la population prend ça comme acquis. Donc pour moi, c'est un danger. C'est un danger, cette numérisation à outrance, si elle n'est pas vérifiée en amont.
Merci beaucoup. Boubacar Boris Diop, vous êtes écrivain. Quelle est votre position sur ce débat sensible qui le restera encore longtemps?
Alors, moi, je ne sais pas trop. C'est-à-dire que je suis très partagé. Un coup, je me dis, oh, c'est très bien, le citoyen lambda n'est plus trop dépendant des grands empires médiatiques, on peut accéder directement à l'information, se faire une opinion, on peut même agir sur l'information à partir de sa petite tablette ou de son téléphone portable. C'est très bien. Et puis, il y a évidemment des informations qui viennent de partout en très, très grand nombre. Ça, c'est le côté pile, quoi. Mais il y a quand même l'autre face de la médaille qui est beaucoup plus inquiétante parce qu'on se dit que ce n'est pas pour rien que des spécialistes, à un moment, des stratèges ont dit il y a l'armée de terre, il y a l'armée de l'air, il y a l'armée de mer. Maintenant, il faut des généraux pour une armée virtuelle, l'armée des ombres. Et c'est comme ça que cela se passe. Ce que le citoyen lambda peut faire sur les réseaux sociaux, intervenir et tout, je vous promets que les services spécialisés le font beaucoup mieux. Moi, mon problème, c'est que, en réalité, la menace est là. Elle ne concerne pas uniquement les petits pays que nous sommes. Et pour finir, j'ajouterai que nous devrions faire attention à accepter les œillères idéologiques qu'on veut nous faire porter. On veut nous faire croire que les méchants Chinois, que les méchants Russes, bah ouais, ils sont là, Huawei, Poutine, interférence, ils truquent, alors que les good guys, les gens de la CIA, les services européens, sont un peu victimes de tout cela. Et nous, on veut nous faire pactiser avec ces prétendues victimes.
Vous n'y croyez pas,
oh, non, mais
pas. Quand on vous dit que...
Il n'y a que des voyous.
Huawei, par exemple, qui est un géant de la communication chinoise, passe par son smartphone mais pour faire de l'espionnage, ça, vous n'y croyez pas.
Si, ils le font. Peut-être même qu'ils font pire. Mais les accusateurs font autant. C'est ça que je dis. Voilà. On ne me fera jamais croire que les Chinois ou les Russes sont les seuls à mal agir. Tous ce sont des fripouilles, hein, si vous permettez l'expression, à votre antenne. Voilà.
Monsieur Senabsa, quand vous parlez de danger pour la démocratie, est-ce que c'est de la même chose que vous parlez? Ces géants qui sont derrière les smartphones, qui sont derrière ces autoroutes de la communication et qui tirent les ficelles sans que les gens qui ne sont pas bien instruits sachent à quoi ils ont affaire?
Mais c'est exactement ça, parce qu'en fait, je pense profondément que l'Afrique est un terrain d'enjeu énorme. Terrain d'enjeu avec ses ressources, surtout ses ressources. Je pense qu'il y a des autoroutes qui sont balisées comme ça par des gens qui ont des agendas bien particuliers. Ils savent exactement ce qu'ils font. Ils savent exactement quelles sont les informations qu'il faut circuler pour justifier ou mieux projeter leur agenda. Donc, rien n'est fait au hasard. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui une arme de destruction. C'est une façon d'imposer une forme de pensée unique. Même si on pense qu'on peut interagir, d'accord, mais nous n'avons pas le contrôle ni le pouvoir d'influer sur l'information qui circule.
Christian Lusakweno, vous avez commencé par dire qu'il ne s'agit pas d'une menace pour la démocratie. Est-ce que votre point de vue a changé après avoir entendu vos co-débatteurs?
Je dis toujours qu'il ne s'agit pas d'une menace pour la démocratie, mais pour suivre le...
Moussa Senab.
Monsieur Moussa Senab. Le fait que l'Afrique ne contrôle pas est le danger de l'Afrique, oui. Mais la règle a été installée pour tout le monde. Aujourd'hui, le professeur Diop l'a dit, les Occidentaux... On pointe du doigt sur les Chinois parce qu'ils disent que ce sont des espions. Mais on a parlé il y a quelques temps de la NSA qui espionne tout le monde, y compris les chefs d'État africains. Maintenant, notre problème à nous, ce n'est pas de se plaindre ou de nous plaindre que tout cela ne soit pas bon parce qu'on n'a pas le contrôle, c'est de faire comme les Chinois, d'essayer d'avoir le contrôle. La réponse du président de Huawei ne s'est pas fait attendre. Si vous croyez qu'il n'y a qu'Android que l'on peut utiliser, on va vous montrer que nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Donc, la numérisation est une bonne chose pour la démocratie. Mais j'ai dit mais. Et derrière les mais, j'ai évoqué la responsabilité de chacun. On dit en Lingala, au Congo, ça veut dire le manque d'information et le début de la mort. C'est ce dans quoi l'Afrique est plongée. Nous sommes dans un environnement où tout le monde sait tout de tout le monde, mais nous ne savons rien de personne. Alors que tout le monde sait ce que nous pensons. Eux, ils ne veulent pas être empêchés de parler. Donc, ils veulent bloquer les Chinois. Et nous, dans tout cela, nous sommes un peu ceux qui observons. Mmh. On pourra se plaindre éternellement, mais le monde va continuer à avancer. Et si nous, nous n'entrons pas dans le train et nous ne faisons pas mieux qu'eux, eh ben, tout sera toujours mauvais pour nous parce qu'on aura le contrôle de rien.
Mais justement, Boubacar Boris Diop, est-ce que l'Afrique est prête pour cette numérisation, pour ces grands enjeux qui se jouent déjà ?
C'est ça qui fait mal au cœur à une époque où le pouvoir politique se fonde sur la puissance technologique. L'écart entre l'Afrique et le reste du monde est tel qu'on a l'impression que c'est un retard quasi irrattrapable. Moi, je ne vois pas d'horizon temporel, quoi. C'est impossible de dire dans 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, on aura comblé le gap. Les Chinois, personne ne les a vus arriver. Et c'est ça qui fait que, bon, ben, en fait, ils énervent tout le monde à un point incroyable. Je suis plutôt, malheureusement, je suis pessimiste. Et je me dis, si Poutine peut déterminer le résultat des élections en Amérique, si le Brexit a été manipulé sur des ordinateurs, mais pourquoi continue-t-on à voter en Afrique? Ça n'a presque pas de sens parce que les résultats qui vont en sortir, eh bien, ils ne vont pas résulter de la volonté populaire, ils vont résulter de la volonté de groupes puissants qui ont les moyens vraiment d'agir sur nos ordinateurs, de leur faire dire ce qu'eux ont envie que les ordinateurs disent. Mais c'est la notion même de suffrage universel qui est remise en cause.
Mais jusqu'ici, on n'a pas la preuve.
Le diable s'est échappé de la boîte.
On n'a pas jusqu'ici la preuve de l'émiction de qui que ce soit dans une quelconque élection sur le continent africain.
Oh, il n'y a pas de fumée sans feu. On ne peut pas en parler comme ça sans vraiment que ça ne repose sur rien. Ben, nous, au Sénégal, on sait que le jour de l'élection, à part quelques petits dérapages ici et là, des excès de zèle et tout, tout est nickel. Les observateurs, en fait, sont complètement bluffés. Mais nous savons très bien qu'en amont le travail a été fait. Et ce qui est en jeu est si important. Il s'agit de contrôler un pays avec ses ressources minières, etc. Ouais. Ben, on fait ce qu'il faut.
Moussa Senab,
ouais, c'est ça qui est terrible.
Oui. Je posais la question de savoir, est-ce que l'Afrique est prête? Est-ce qu'avec encore, malheureusement, ce fort taux d'analphabétisme ou ce faible niveau d'instruction, on a un terrain fertile pour les manipulateurs qui pourraient être amenés à passer par les autoroutes de la communication, les réseaux sociaux, pour manipuler les opinions?
Moi, je donne souvent l'image du voyageur qui arrive dans une gare. Il arrive dans la gare, il y a un train qui part. Il se précipite, il saute dans le train. Mais il ne sait pas où le train va. C'est ça l'Afrique aujourd'hui. Nous nous embarquons dans un voyage dont on ne sait pas le but du voyage.
Est-ce que vous n'êtes pas trop radical? Est-ce qu'on n'est pas quelque part obligé? Parce qu'on parle de globalisation, de mondialisation.
Oui, d'accord, mais on doit y aller. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais au moins, essayons d'intervenir dans le contenu. Il faut qu'il y ait des programmateurs africains, plus des Africains qui travaillent des contenus africains. Ce n'est pas parce que tout le monde mange des hamburgers que je dois manger des hamburgers. Et si moi, je préfère les tchéboudjian, il faut que je me démerde pour que les tchéboudjian soient disponibles. C'est ça la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a des autoroutes, tout le monde y va, et nous, on nous pousse dedans. Mais on nous pousse dedans, on n'a pas été entraîné pour aller à cette course. On n'a pas de bonnes chaussures pour faire la course. Nous n'avons pas d'eau à boire le long de la course. Donc nous voilà, on sera essoufflés aux 5 premiers kilomètres. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas une élection en Afrique qui ne soit pas truquée. Il n'y en a pas. Au Sénégal, on dit que Facebook a intervenu dans les élections. On le dit. Et ce n'est pas n'importe qui le dit. Hein. Il y a des gens qui démontrent l'implication de Facebook dans les résultats des élections au Sénégal.
Mais comment ça se fait?
En diffusant, en créant de faux comptes, multiplication de faux comptes, en diffusant à outrance des fake news que tout le monde n'a pas la capacité d'analyser. N'oublions pas, je reviens là-dessus, n'oublions pas que nous sommes dans une société où 90% de la population africaine n'est pas capable de lire et de comprendre. Donc, voilà la réalité.
Christian Lusakweno, vous avez dans vos propos insisté sur l'élément responsabilité. Est-ce que vous y mettez aussi le rôle que s'octroient certains régimes qui contrôlent l'information, ce qui se passe, ce qui passe sur les réseaux sociaux, parfois verrouille, ferme l'accès? Est-ce que c'est de ça que vous parlez?
Je comprends la crainte. Je comprends la crainte aujourd'hui qui n'est pas de « le vote a eu lieu ailleurs », mais ailleurs on influence le vote. Les régimes ont peur, puisque personne en Afrique n'est prêt, tout le monde semble dire. Donc, le vote démocratique dépendra d'autres. Ça, c'est le danger. Mais est-ce que ceux qui vont aller voter ne se seront pas exprimés ou n'auront pas exprimé leur opinion du moment? C'est mauvais pour la démocratie? Non. C'est peut-être mauvais pour le développement parce que le choix qui aura été fait n'aura pas été un choix fait en connaissance de cause. Ça aurait été un choix influencé. Ça, c'est la menace des réseaux sociaux. Ça, c'est la menace de la numérisation. Mais la démocratie gagne parce que vrai ou faux, cette information, celui qui aura exprimé son choix, il pensera avoir fait le bon choix. Maintenant, l'Afrique ne peut pas se plaindre. On parlait de la Chine, on pensait que le retard de la Chine était énorme, mais pendant que la Chine avançait, personne ne l'a regardé. Aujourd'hui, tout le monde regarde l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est obligée de monter dans un train puisqu'elle n'a pas créé de train. Aujourd'hui, l'Afrique doit faire que son tchibouden soit aussi mangeable, consommable. Aux États-Unis ou en Chine. Mais aujourd'hui, nous, l'Afrique, qu'est-ce que nous faisons? On ne peut pas toujours dire que les autres, c'est le problème, alors que nous sommes aussi ce problème. On reste vivant dans des coutumes, dans des cultures qui ne sont peut-être pas adaptées. On doit les conserver. Les Chinois conservent les leurs. Mais en même temps qu'ils les conservent, ils s'adaptent. Et c'est cette adaptation, c'est ce travail que nous, en Afrique, nous ne faisons pas. Je suis né en Europe, j'ai grandi en Europe, je vis en Afrique. Je constate qu'en Afrique, on est trop à complot contre nous, alors que le véritable complot, c'est le complot que fait l'Africain contre son frère qui évolue parce qu'il le jalouserait. Donc cette numérisation, c'est une bonne chose. Cette numérisation, on doit se préparer, on ne doit pas s'en plaindre, à mon avis. Et ces régimes qui bloquent les réseaux sociaux quand on s'approche des élections, s'ils avaient eu des résultats, parce qu'on ne peut pas vendre du vent. Ces réseaux sociaux ne vendent pas du vent. Ces réseaux sociaux vendent des rêves que les différents régimes n'ont pas réussi à amener dans la poche, dans la tête, dans le quotidien
de l'électeur. Oui, Christian Lusakweno disait tout à l'heure que l'Afrique pratiquement n'avait aucune part dans tout ce monde de créativité, aussi des réseaux sociaux. Il y a quand même des start-up sur le continent qui fabriquent aussi ces machines-là, ces smartphones. On crée des applications même pour promouvoir les recettes culinaires africaines. Et
j'ai même, grâce à la Deutsche Welle, grâce au Global Media Forum, rencontré des sociétés sud-africaines qui nous vendent en Afrique des solutions que l'on ne trouve ou que l'on ne pensait trouver qu'en Europe ou aux États-Unis. Donc l'Afrique y travaille, mais il faudrait que des sommités comme celles qui sont autour de notre table, nous ne sommes que des journalistes, des sommités, ceux qui réfléchissent à notre place ou qui réfléchissent pour nous, pas à notre place mais pour nous, montent dans le train et nous tiennent la main. Et vous êtes autour de cette table à avoir bien identifié la problématique. Il faudrait maintenant que l'on se donne la main et qu'on avance dans la direction ouverte là où on ne nous attend pas, nous l'Afrique.
Boubacar Boris Diop, comment est-ce que vous analysez la censure? On est obligé d'en parler, c'est tellement fréquent sur le continent. Des régimes, le Tchad par exemple, depuis plus d'un an, a décidé de verrouiller l'accès aux réseaux sociaux et certains responsables du pouvoir tchadien ont expliqué que c'est fait pour pouvoir éviter la dérive et surtout dans un contexte de lutte antiterroriste, pouvoir contrôler ce qui passe sur les réseaux sociaux. De votre point de vue d'écrivain, d'intellectuel, comment est-ce que vous observez développement?
Mais d'abord, je crois qu'il faut se méfier des termes de la comparaison. L'Afrique, c'est un continent. C'est 54 pays tellement différents, etc. La Chine a beau être importante, c'est un pays. Vous voyez, on aurait parlé de l'Asie et de l'Afrique. OK, je crois que ça aurait été opératoire. Mmh. Mais là, je pense qu'il faut faire attention. Le problème avec l'analyse des réalités africaines, c'est qu'on prend le continent comme un tout, et puis maintenant, on extrait des expériences malheureuses, voire désastreuses, pour les appliquer à l'ensemble du continent. Mais avec ça, on sera encore là pendant 5 siècles à nous lamenter. Je crois qu'il y a, en Afrique, des pays comme le Botswana, dont on parle souvent, où les choses se passent relativement normalement depuis longtemps. Je pense que l'Afrique du Sud commence à sortir du lot. Voilà. Mais en même temps, on ne les considère pas comme emblématiques du continent africain. Maintenant, oui, je voulais vraiment cette petite parenthèse. Maintenant, la censure, elle n'est jamais bonne, elle n'est jamais acceptable. Mais lorsqu'on voit ce que certaines personnes racontent sur les réseaux sociaux, sans aucune espèce, justement, de sens des responsabilités, ben on comprend que n'importe quel régime essaie quand même de mettre le holà. Mais là, ce qui est inquiétant, c'est que, au fond, c'est pain béni pour les dictatures. Au nom de la préservation de la morale, de l'unité nationale et de je ne sais pas trop quoi, on bloque l'expression, la liberté d'expression, et on a de très bons alibis pour le faire. Alors, comment trouver la juste mesure entre vraiment laisser s'exprimer les gens librement avec ces outils fabuleux qu'on ne peut pas laisser entre les mains. C'est le citoyen qui arrive à s'exprimer. Alors, comment vraiment avoir ça et faire en sorte que l'on ne soit pas dans des excès. Au Sénégal, on a eu des gens qui ont pris le micro, mais alors là, si je répétais ce qu'ils ont dit sur les réseaux sociaux, en fait, on ne me donnerait plus de visa pour l'Allemagne. Tellement c'était grossier, tellement et ils attaquaient personnellement les gens. C'était des révélations à n'en pas finir. Tout le monde a peur, tout le monde se sent surveillé. Alors si en plus de ça, on doit être insulté, c'est grave. Mais en même temps, il y a la dimension politique. Il faut que les gens arrivent à s'exprimer. L'équilibre est à trouver.
On parle de la censure. Ouais. Moussa Senabsa, vous avez sans doute remarqué l'intervention de ce qu'on appelle le ministre-président, le chef de la région de la Rhénanie du Nord-Westphalie, lors de ce Global Media Forum, parler d'un youtubeur, un acteur de réseau social YouTube qui est intervenu juste avant les élections européennes en Allemagne et qui a mené une attaque frontale contre le parti de la chancelière Angela Merkel, la CDU, dont est membre ce ministre-président, Armin Laschet. Et il dit, Armin Laschet, que cela appartient au domaine de la liberté d'expression. Est-ce que l'homme politique allemand est différent de l'homme politique africain qui veut coûte que coûte censurer et sous prétexte de la lutte antiterroriste, sous prétexte de menaces qui existeraient?
Je pense que les tendances dictatoriales ont la vie dure. Il y a au Sénégal, en tout cas, une tendance qui fait qu'il y a une forme de résistance citoyenne qui s'est développée avec Yanamar, avec quelques groupes de personnes qui ont porté la voix de la jeunesse, de la voix des désespérés, la voix des sans-voix. Et le M23 aussi, qui a été un mouvement extraordinaire, qui, à travers les réseaux sociaux, ont réussi à déjouer des plans monarchiques.
En RDC, on a Filimbi, on a Lucha, voilà, et
exact.
Autres.
Donc, il y a toute cette mouvance citoyenne que les politiques tentent de conjurer, d'essayer d'amoindrir les effets, de réduire leur espace. Donc je pense qu'aujourd'hui, le plus grand danger que nous avons en Afrique, en tout cas, c'est sous le prétexte que on va atteinte à la souveraineté de l'État, atteinte au chef de l'État, atteinte à tel groupe ethnique. Sous des prétextes parfois fallacieux, bâillonner les porteurs d'idées.
Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir fait ce débat avec nous. Boubacar Boris Diop, écrivain et intellectuel sénégalais. Moussa Sen Absa, homme de culture, cinéaste sénégalais également. Et Christian Loussakweno, promoteur de Radio Top Congo, basé à Kinshasa, partenaire de Radio Deutsche Welle. Merci à nos auditeurs d'être restés à l'écoute de bout en bout. Fréjus Kenom à l'animation de ce débat à bras palabres. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de cette émission. We'll be right back.